Alors je voudrais d'abord remercier dans l'ordre alphabétique Philippe Artière, Jean-François Bert et Jean-Claude Zancarini de m'avoir transporté jusque vers l'Europe aux anciens parapets pour parler devant une assemblée extrêmement choisie de philosophes notamment, de cette question de ce qu'on appelait autrefois la sociologie de la philosophie. Et je voudrais d'abord insister sur le fait que le paysage historiographique a énormément changé en une quarantaine d'années, et je crois que ce colloque en est un exemple tout à fait significatif, puisque ce sont aujourd'hui, pour une grande part, sinon exclusivement, des philosophes qui s'intéressent aux pratiques liées à la philosophie, ce que les sociologues avaient essayé de faire maladroitement, je crois, dans le passé. Et donc une forme d'opposition entre sociologie et philosophie qui s'est cristallisée dès la fin du XIXe siècle avec Durkheim se trouve aujourd'hui, je crois, totalement remise en question. Alors j'ai commencé, on met longtemps à devenir jeune, mais bon, j'ai mis un certain temps à devenir vieux, donc je peux parler de très très loin, puisque j'ai lu Les mots et les choses sont parus quand j'étais en seconde, mais j'habitais une très petite ville insulaire, et j'ai commenté le livre à la papeterie, et il est arrivé seulement quand je suis entré en première. Donc, ceci dit, je l'ai lu in extenso et je n'ai rien compris. Mais ça a été la première forme historique de mon intérêt sur les formes de diffusion de la philosophie. Alors, nouvelle conjoncture, puisque il y a un demi-siècle, les philosophes restaient très largement marqués par, disons, un discours internaliste sur leur propre histoire, et ce qui a longtemps prévalu, et quand je passais l'agrégation, c'était encore le modèle des modèles. L'histoire de la philosophie que pratiquait Martial Guéroux était précisément la plus internaliste, celle qui supposait toute philosophie comme constituant un système clos et autosuffisant, et ne devant qu'à ses propres principes de fondation sa logique propre. Depuis cette époque, je crois que les choses ont changé, probablement plus en dehors de France qu'en France, mais cela tient sans doute à une forme aujourd'hui résiduelle, il faut bien le dire, d'arrogance disciplinaire des philosophes et de timidité constitutive des historiens français à l'égard de cette discipline. Alors, très loin, le temps où Pierre Bourdieu publiait la première version de sa remarquable ontologie politique de Martin Heidegger en 1975, et depuis c'est en 1975 aussi que John Pocock ou Quentin Skinner ont commencé de publier des travaux d'histoire de la philosophie qui mettaient au centre de leurs préoccupations la recontextualisation des énoncés. Un très bon exemple se trouve dans le dernier ouvrage traduit de Skinner à propos de Hobbes, justement, et disons qui superpose à l'histoire de la philosophie l'histoire politique. Mais des gens comme Richard Horty ou Charles Taylor se sont aussi proposés d'ouvrir des points de passage entre l'histoire des concepts et l'histoire culturelle. Alors, j'ai connu Christian Jacob au tout début de son œuvre, et il mentionnait à la fois Michel de Certeau et Pierre Bourdieu. Effectivement, il se trouvait que j'hébergeais au printemps 76 à San Diego Michel de Certeau, et que c'est à ce moment-là que j'ai commencé à penser à écrire autrement l'histoire de la philosophie. Aujourd'hui, je crois que ce sont les philosophes qui font ce travail pour l'essentiel, et bien mieux que nous le faisons. J'ajouterais que Michel Foucault a toujours été le grand absent de mon enquête, une absence présente en même temps, puisque c'est à un de ses textes mineurs qui est à la fois la préface à l'édition en langue anglaise de travaux de Georges Canguilhem et ce qui a été La vie, l'expérience et la science publié au début de façon posthume au début de 85, qui m'a interrogé, puisque j'en reparlerai, sa partition ou la ligne de partage qu'il énonce entre une philosophie du sujet, de l'expérience subjective, et une philosophie du concept, est quelque chose qui m'a paru souvent plus, disons, plus actif, plus efficace, que des constructions sociologiques. Alors, un exemple de détail, je m'excuse de renvoyer à mes propres travaux, mais comme ce sont des comptes rendus critiques, j'espère que ce n'est pas de la forfanterie. Dans la dernière livraison des Annales, j'ai fait deux comptes rendus, un consacré au travail d'un philosophe sur Lévi-Bruhl, celui de Frédéric Keck, un livre que Contradiction et Participation, et l'autre, un livre qui s'appelle La théorie souveraine de Louis Pinto, et sur le rapport entre philosophie et sociologie au XXe siècle. Et il ne m'a pas été difficile de montrer, mais c'est un constat tout à fait objectif, qu'il y avait plus de sociologie dans l'œuvre du philosophe que dans celle du sociologue. Je ne me prononce pas sur la quantité de philosophie qui se trouvait dans l'un et l'autre livre. Alors, je voudrais, et de manière peut-être obscène, par rapport à un colloque ou un atelier, je ne sais plus comment vous l'appelez, qui se consacre à une œuvre singulière et tellement exceptionnelle, je m'en veux un peu, mais comme je ne peux pas faire autre chose, j'arrête de m'en vouloir. Est-il intéressant de se poser la question que me posait Philippe en me présentant? Est-il intéressant de se poser la question de savoir ce qu'est un philosophe français et si ça peut nous aider à comprendre Michel Foucault, dont je peux aussi vous demander si vous considérez qu'il est un philosophe. Alors, à différents moments de l'histoire, et la globalisation est récente, mais la circulation internationale des idées, pour parler comme Bourdieu, Christian le sait mieux que moi, est quelque chose de très ancien, et le transport à longue distance des d'œuvres, de textes, de fragments, est une pratique qui n'a pas attendu la globalisation. Alors, plusieurs fois au cours de l'histoire, des philosophes, plus que d'autres membres d'autres disciplines, ont été dans la situation d'incarner une forme que j'appellerais de francité ou de Frenchness, qui en a fait le succès international, au prix bien entendu, comme le disait Christian, de pataquès, de malentendus, comme le dit Herbert Garfinkel dans un de ses derniers ouvrages, I misread Merleau-Ponty. Hein, et donc ici c'est une mauvaise lecture consciente et volontaire, une trahison effective, mais effectivement les malentendus de lecture sont aussi constitutifs de cette circulation des concepts qui ont toujours au moins une double existence dans des circonstances idéologiques tout à fait éloignées. Des individus comme Bergson, Sartre et Foucault incarneront pour le monde entier, on peut dire, la puissance d'un modèle intellectuel, celui du philosophe français, dont vous pourrez contester le fait que je les apparente par une sorte de coup de force. Et ce qui est intéressant dans cette figure du philosophe français, je vais en proposer quelques éléments qui sont bien sûr à discuter, hein, mon intervention est une proposition. Parmi ces éléments, il y a cette double ou cette articulation entre deux formes tout à fait différentes de présence sur la scène, l'une que j'appellerais un ancrage dans une forme de terroir philosophique, qui est aussi, pour parler un autre langage, une forme de localité basée sur une sociabilité, des formes d'échange très, très particulières. Les trois d'ailleurs sont issus de l'école normale, ils ont entretenu des rapports avec leurs condisciples qui sont tout à fait importants et tout à fait centraux dans le développement de leur œuvre. Donc, ce terroir philosophique dont l'urbanité parisienne est la forme la plus saillante, mais pas exclusive, est associé, disons, dans cette articulation, à une capacité à s'identifier à l'universel en continuant de parler la langue locale. Alors, je vais m'expliquer. Le philosophe français, si on admet provisoirement cette catégorie, semble jouer en permanence sur deux tableaux ou sur deux scènes. La première est celle du savoir et de ses fondations, même si de nombreux héros philosophiques, et là il y en a bien des exemples, ont pourfendu la raison scolastique et les corpus institués, mais cet aspect, disons, de fondation conceptuelle est central. Donc, il est évident qu'ici, le geste cartésien, pas seulement en tant que tel, mais dans la mesure, comme l'a montré François Azouvi, dans la mesure où il a été repris, une sorte de geste cartésienne a été réinventé au cours des trois siècles qui ont suivi sa mort, et en particulier peut-être la plus baroque, mais nous travaillons en ce moment avec Jean-François Bert sur ces questions, la plus baroque, l'appropriation via Georges Politzer de René Descartes par Maurice Thorez en 1937, fait partie de cette opération de déclassement du savoir institutionnel et de production, hein, d'une nouvelle philosophie, la nouvelle philosophie de M. Descartes, comme entreprise radicale et sans exemple. Cette prise de position radicale qui suppose, disons, le dénouement, de configuration de savoir établi, sera rejoué plusieurs fois dans l'histoire intellectuelle de la France. Alors, parce que effectivement, on pourrait dire qu'il y a une double existence du concept, l'une qui est effectivement, qu'on pourrait dire, ésotérique, et puis une autre qui est exotérique, et sa dimension exotérique a elle-même deux niveaux. Le premier est celui, effectivement, de ce que décrivait Christian, c'est-à-dire les appropriations multiples, les réinventions, effectivement, le Foucault de Berkeley ou celui de Rice, de James Fobion, l'anthropologue, est très différent du Foucault que nous pouvons connaître à Paris. Mais aussi, deuxième niveau de cette dimension exotérique, le fait que les grands philosophes français ont très généralement, et Foucault entre, je pense, dans cette catégorie, transgressé la limite professionnelle, le milieu professionnel, et pour Foucault le monde disciplinaire dans lequel il avait commencé sa carrière. Et donc la volonté de s'adresser, alors je dirais à la plupart, Poloy, à tout le monde même, n'est jamais une clause de style, bien et qu'évidemment elle produise, et c'est bien naturel, une série de pataquès en chaîne. Ici les chaînes opératoires à Leroy Gourand deviennent des chaînes de malentendus. Alors cette disposition transgressive me semble constituer quelque chose comme une continuité, au fond, ésotérique, puisqu'il revendique une autorité intellectuelle sans partage, et se moque, avec le rire de Foucault peut s'inscrire dans ce type de remarque, se moque de ses concurrents illégitimes, en particulier les sociologues, et le philosophe français n'entend pas se priver de la brillante reconnaissance du monde, et s'affiche comme exotérique. Donc le choix d'écrire en français pour Descartes, ou le souci de se situer du côté des damnés de la Terre qu'exprime Sartre. Alors souvent, le discours rétrospectif, et ça a été celui de l'histoire de la philosophie pendant longtemps, s'efforce de dissocier ces deux modes d'existence du concept dans le monde social, et place du côté bien des mésusages, du bruit, de la brume, du brouillard, tout ce qui contrevient précisément à ce que Christian désignait comme une forme d'agiographie philosophique. Donc on aurait le droit d'imaginer deux Derrida, celui qui a traduit l'origine de la géométrie et qui a obtenu pour cela le prix d'épistémologie Jean Cavaillès, et puis le Derrida gourou que l'on a tous connu quand on allait dans l'université américaine et qui était toujours suivi de plusieurs centaines de femmes, pour beaucoup de jeunes japonaises d'ailleurs. Donc,